se lassent pas d'entendre les baleines chanter, mais eh bien, ça n'est pas leur sens de la mélodie qui nous intéresse aujourd'hui, Héloïse, à la une de la science.
Non, Mathieu, c'est d'un autre de leurs sens dont on va parler, leur odorat. C'est sur leur capacité à sentir les odeurs qui existent bel et bien, qu'une équipe de chercheurs français a travaillé. Alors, leurs résultats sont à retrouver dans la revue Plus One. On rejoint tout de suite Aurélie Célérier, une des auteurs de l'étude, en duplex depuis Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à l'Université de Montpellier, chercheuse en écologie comportementale au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS. Alors, ça fait que quand on pense aux baleines, à la façon dont elles perçoivent le monde, on pense tout de suite au chant et donc à leur capacité à entendre. Pourquoi vous êtes intéressée à l'odorat des baleines ?
Bah effectivement, les cétacés, c'est-à-dire les dauphins et les baleines, ont toujours été considérés par les scientifiques comme anosmiques, c'est-à-dire dépourvus d'odorat. On les considère, comme vous l'avez dit, plutôt comme des êtres acoustiques avec le chant des baleines et puis l'écholocation aussi chez les dauphins qui a un sens particulier. Et donc la plupart des études scientifiques focalisent principalement sur cette communication sonore.
Et pourquoi il y avait cette croyance Excusez-moi.
En raison essentiellement d'arguments anatomiques, c'est-à-dire que chez les cétacés, les structures classiques qui sont impliquées dans l'olfaction chez les autres mammifères sont soit régressées, c'est-à-dire atrophiées, soit totalement absentes. Et ça, c'est lié en partie à une histoire évolutive assez originale, puisque les cétacés ont un ancêtre terrestre et ils sont secondairement retournés à la vie aquatique. Et ce changement de milieu au cours de l'évolution, ça a entraîné des changements énormes de leur anatomie, de leur physiologie. Et les voies respiratoires, notamment, sont totalement réorganisées par rapport aux autres mammifères.
Il y a des bulbes olfactifs quand même ? Chez la baleine ?
Alors, chez la baleine, il y a des bulbes olfactifs, mais qui sont vraiment régressés. Et du coup, nous, on est parti effectivement de l'idée que chez les cétacés, peut-être que la perception chimique, elle pourrait ne pas être totalement absente, mais simplement organisée de façon différente des autres mammifères et reposée sur des structures peut-être plus originales.
Alors, comment on fait en pratique ? Comment vous avez fait pour savoir si oui ou non les baleines pouvaient sentir des choses ?
Déjà, on a travaillé en milieu naturel, donc on a mesuré leur réponse comportementale et leur réponse acoustique à des stimuli chimiques qui étaient des stimuli liés à leur alimentation. Et donc, on a diffusé deux types de substances, de la poudre de krill. Hein. Le krill, c'est des petites crevettes et ça constitue la source d'alimentation principale des baleines à bosse. Mm-hmm. Et l'autre substance, c'est le DMS, le diméthyl sulfure. Qui est une substance très volatile et qui est produite naturellement à la surface des océans quand le phytoplancton est dégradé par du zooplancton.
Et comment vous avez regardé si les baleines réagissaient ? Vous les avez observées ?
Alors, en fait, on a donc toutes les expériences. Donc, on diffusait ces différentes substances. En alternance, on faisait des expériences contrôle, c'est-à-dire des expériences qui nous permettent de s'assurer que c'est bien les caractéristiques chimiques qui sont perçues. Par exemple, pour le krill, on diffusait de l'argile rouge. Hein. C'est une substance qui présente les mêmes caractéristiques visuelles que le krill, mais qui n'en présente ni le goût ni l'odeur. Et ensuite, on filmait toutes ces expériences par drone, de façon à mesurer, observer très finement les trajectoires des baleines et leur position par rapport au diffuseur. Donc voir si elles s'approchaient, si elles présentaient des comportements d'attraction.
Et Aurélie Célérier, dans quelle région du monde alors vous avez fait ces observations exactement ?
Alors, on a travaillé à différents endroits parce que, vous le savez, les baleines, ce sont des migratrices qui parcourent chaque année des milliers de kilomètres entre des eaux froides polaires où elles vont se nourrir et des eaux chaudes tropicales où elles viennent se reproduire. Et donc, on a réalisé nos expériences dans ces deux types de zones. Donc, dans deux zones d'alimentation, c'est-à-dire l'Islande et la péninsule antarctique. Et dans une zone de reproduction, donc au niveau du canal Sainte-Marie à Madagascar, où elles viennent chaque année se reproduire.
Alors, quels résultats vous avez obtenus ? Est-ce que vous avez eu des résultats différents en fonction des localités, par exemple ?
Oui, effectivement. Donc, on a observé qu'il y avait un comportement d'attraction vis-à-vis du krill, c'est-à-dire qu'elle reste plus longtemps dans la zone de diffusion et elle semble explorer la zone en plongeant et en réalisant des cercles autour. Et on a vu que l'intensité de ces réponses comportementales pour le krill, par exemple, elles étaient différentes en fonction des zones géographiques. Par exemple, on a eu des réponses plus intenses en Islande qu'en Antarctique. Et l'hypothèse qu'on a fait, c'est que naturellement, en Antarctique, il y a très peu de krill. Et que donc le stimulus qu'on envoie il ressort très bien du bruit de fond. Hein, il n'y a pas de krill, donc notre stimulus krill est très bien perçu par les baleines, alors qu'en Antarctique, où les eaux sont naturellement riches en krill, eh ben, notre stimulus il est relativement faible et le signal ressort peu du bruit de fond.
Donc maintenant, vous êtes sûr que les baleines peuvent sentir, mais on ne sait toujours pas bien sur quelle structure anatomique ça repose. Il faudrait continuer les recherches.
Oui, effectivement. Nos résultats comportementaux montrent qu'effectivement elles sentent, mais ça veut dire que donc elles sont équipées anatomiquement pour le faire. Et donc en parallèle des études comportementales, on est en train de réaliser des études histologiques et immunohistochimiques sur des tissus qui sont prélevés de façon opportuniste sur des cétacés qui sont morts échoués. Et l'idée, c'est qu'on essaye de mettre en évidence la présence et la localisation de récepteurs sensoriels chimiques, par exemple des récepteurs olfactifs ou des papilles gustatives.
Et rapidement, là c'est la recherche fondamentale, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des applications concrètes en écologie ?
Effectivement, ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, c'est acquérir des connaissances nouvelles sur ces cétacés, notamment ce sens qui est largement méconnu. Mais à plus long terme, quand on en saura davantage, on pourrait imaginer de découvrir des substances chimiques qui pourraient être utilisées pour leur conservation. Hein. La plupart des espèces de baleines sont menacées. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on pourrait trouver des substances répulsives qui permettrait de les éloigner des zones dangereuses potentiellement, par exemple les filets de pêche qui peuvent être des pièges ou les zones de trafic maritime intense où les collisions avec les bateaux peuvent être fréquentes.
Merci beaucoup en tout cas. Merci. Aurélie Célérier pour ces précisions autour de l'odorat et des baleines. Et c'est vrai qu'on en a rarement parlé ici au micro de La Tête au Carré. Merci à vous et Héloïse, on se retrouve
Merci
demain.
Beaucoup. À demain Mathieu.